La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, bienvenue à la prédication protestante. Je suis le pasteur David Tripet de l'église La Maison à Toulouse. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Qu'il soit celui qui guide chacun de vos pas, qui éclaire votre chemin, et que cette année 2026 soit pleine de bénédictions pour vous et de grâce. Nous venons de célébrer Noël et le cap de la nouvelle année. Peut-être pour certains d'entre vous dans des moments festifs en famille, peut-être pour d'autres aussi dans des moments plus difficiles. Ce n'est pas toujours les moments les plus joyeux pour tous. Nous avons entendu le message dimanche dernier de ma collègue Sandra Ramage par rapport aux bergers qui sont venus célébrer, accueillir le roi Jésus à Noël. Et puis là, nous allons approcher de la fête des rois où nous nous rappelons que Jésus a aussi été accueilli sur cette terre en tant que simple enfant et adoré en tant que simple enfant, mais aussi en tant que roi, par des savants, par des mages. Alors, si la tradition chrétienne parle de roi-mage, en réalité, la Bible ne parle pas de roi, mais de mages, de savants, et en réalité, on ne sait pas vraiment leur nombre. C'est seulement Tertullien, et puis il y en a qui, au IIIe siècle, a fait notion d'idée de royale de ces mages, et puis Origène, quelques temps après, qui en parle du nombre de ces mages, certainement en référence aux trois cadeaux qui sont l'or, l'encens et la myrrhe. Cependant, dans le texte de Matthieu 2, nous voyons que les mages viennent adorer Jésus en venant depuis l'Orient et en suivant une étoile. Et en suivant cette étoile, ils arrivent à Jérusalem. Et là, ils arrivent, c'est étonnant, ils viennent vers le roi en place, le roi Hérode, et ils lui posent cette question, où le roi des Juifs vient de naître? On pourrait dire, mais c'est bizarre, parce qu'ils suivent l'étoile est sur la crèche. Et donc, Hérode est semé de confusion, et c'est un roi assez dictatorial qui veut le pouvoir pour lui seul, mais il va être assez malin, il ne va pas leur dire, il va dire, je sais pas trop, mais quand vous le trouverez, en gros, dites-le-moi, faites-le-moi savoir, puis moi aussi je vais vouloir l'adorer. Sauf qu'en réalité, Hérode voudra le tuer, et on verra plus tard qu'il y a ce grand massacre où Hérode va tuer tous les enfants d'au-delà de 2 ans qui sont nés dans la région de Bethléem, parce que les textes messianiques, c'est-à-dire les prophéties de l'ancien temps, disaient que le Messie devait naître à Bethléem, ce qui est dans la région de Bethléem, ce qui est effectivement le cas pour Jésus. Mais Jésus va donc être protégé de ce massacre de tous ses enfants qui vont mourir parce que son père Joseph sera averti divinement par un ange de fuir en Égypte. Mais revenons aux mages. Les savants d'Hérode lui ont donc fait savoir que les prophéties de l'Ancien Testament disaient que Jésus allait naître à Bethléem et donc les mages vont être conduits à Bethléem. Arrivés sur place, ils offrent 3 cadeaux à Jésus. L'or, l'encens et la myrrhe. Ces 3 cadeaux ont en fait une symbolique très forte. L'or symbolise toute la dimension de la royauté. C'est un cadeau de noblesse, de roi, qui parle de royauté, mais c'est aussi qui parle de la gloire. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, avant que le temple de Jérusalem ne soit construit, il y avait un temple mobile qu'on appelle le tabernacle. Et il y avait différents matériaux que Dieu avait ordonné à Moïse d'avoir pour le construire. Et tout l'intérieur du lieu saint, du lieu très saint, ce qui est aussi le cas dans le temple d'ailleurs, était recouvert d'or. C'est aussi le cas de l'arche de l'Alliance qui symbolise le lieu où Dieu réside. Donc l'or parle de toute la royauté, de la gloire de Dieu pleinement. L'encens est un parfum qui nous parle de l'autel des parfums qu'on retrouve aussi dans le temple, mais qui parle aussi de tout l'encens qu'on parle de la sacrificature, c'est-à-dire de la mise à part, de la prêtrise, quelque part, c'est-à-dire cette mise à part pour le service de Dieu qui est donnée qu'à quelques personnes rares. Et puis, la myrrhe, ben, c'est étonnant parce que c'est plutôt un parfum qu'on va utiliser pour embaumer les morts. Et quelque part, c'est aussi comme si ce cadeau-là rappelle la mission de Jésus sur cette terre de dire, ben, dès sa naissance, il vient pour sauver l'humanité d'une mort certaine pour lui-même mourir à notre place et être ressuscité. Donc, les mages viennent adorer Jésus pleinement, comme les bergers au préalable sont venus adorer Jésus. Et puis Joseph sera averti divinement de fuir avec sa famille pour pas être massacré. Si je vous parle de cela, c'est parce que j'aimerais, pour cette année 2026, vous encourager et nous encourager à être à l'écoute de Dieu, à être aligné sur le cœur de Dieu, que tu sois mage dans la noblesse et dans la richesse, que tu sois en berger, en pauvre, que tu sois en paysan qui a besoin peut-être de se battre pour vivre. On pense à tous celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de manifester ou qui sont dans des vraies difficultés. Que tu sois célibataire ou marié, au chômage ou chef d'entreprise, peu importe ta situation. Jésus veut se révéler à toi et guider tes pas. Les mages ont choisi de suivre cette lumière. Ils auraient pu dire non, non, on va pas la suivre, on va rester chez nous. Bon, c'est un signe intéressant dans le ciel, il faudra l'analyser, le noter, et puis on verra qu'est-ce qui se passera par la suite. D'ailleurs, d'après les chercheurs plus récents, actuels, il semblerait qu'autour du 17 avril de l'an moins 6, un événement énorme s'est passé dans le ciel autour de la constellation du Bélier. Saturne ainsi que le Soleil et Jupiter sont rentrés dans cette constellation. Il y a eu une éclipse lunaire en même temps. Et à l'aube, Jupiter serait apparu de manière visible à l'œil nu comme une étoile brillante. Donc si on en croit aux recherches astronomiques, Jésus serait peut-être plutôt né autour du mois d'avril de l'an moins 6. En tout cas, les mages seraient allés l'adorer à cette époque-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de se poser cette question-là dans nos vies. Quelle lumière est-ce que je suis? Est-ce que je suis la lumière que Dieu a mise devant moi? Est-ce que je crois que cette année 2026, Dieu pourra m'éclairer dans mes choix, dans les décisions de ma vie, dans chacune de mes étapes? Est-ce que je lui fais confiance dans ce que je vais vivre cette année? J'aimerais vous poser cette question et vous encourager à vous la poser vous-même. Peut-être que tu as des défis devant toi. Peut-être que tu as des défis financiers, des défis familiaux, des défis professionnels, des défis relationnels, ou peut-être même des histoires non réglées. Pas que de 2025, mais plus ancienne. Et si tu laissais la lumière de Dieu guider tes pas et te conduire? J'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais chacune de mes zones d'ombre. Cette année 2026, viens éclairer ma vie, guide mes pas, guide-moi sur le chemin que tu as prévu pour moi, comme tu as guidé les mages par ton étoile, comme tu as guidé les anges, les bergers par les anges. Guide-moi dans chacun de mes choix et aide-moi à croire encore plus en toi et à te faire confiance. Car je sais que cette année 2026 sera bien meilleure si je la vis avec toi que si je la vis sans toi. Alors éclaire ma vie. Amen. On peut passer parfois à côté des rendez-vous de Dieu. Imaginez si les mages n'avaient pas suivi la lumière, n'avaient pas vu la lumière. Ou encore pire, si Joseph n'avait pas écouté l'ange et n'avait pas fui avec sa famille en Égypte, que Jésus aurait été massacré par Hérode. Écoutons, cherchons de tout notre cœur à écouter Dieu, et à faire sa volonté. J'aimerais vous donner quelques témoignages. Depuis 20 ans, je suis pasteur. Je viens de Suisse et j'ai vu tellement de fois Dieu agir malgré moi. Et j'aimerais vous lire, vous le redire aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des super-héros. Jésus n'est pas venu sur cette terre dans le but d'influencer, d'être un grand influenceur dans le monde. Je pense que même si Jésus reviendrait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il chercherait à remplir les stades ou être un gros influenceur sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, à son époque, il aurait cherché à remplir les arènes romaines, peut-être. Mais ce n'était pas le cœur de Jésus. Non, le but de Jésus n'est pas d'être qu'on soit des super-héros, qu'on soit des super-chrétiens, mais qu'on fasse sa volonté, qu'on cherche son cœur et qu'on le laisse agir dans nos vies. Qu'on ne cherche pas toujours à tout contrôler, mais qu'on le laisse lui aussi guider nos pas, comme il a guidé les pas des mages. Plein des fois dans ma vie, j'ai pu voir Dieu agir et j'aimerais vous donner quelques témoignages. Le premier, c'est quand mon fils est né, avec quelques mois, nous étions dans une église et dans cette église, voilà que des enfants qui priaient pour des malades, pour la guérison. Et ces enfants viennent vers nous, avec ma femme, et moi et mon petit bébé, et nous disent, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à la hanche? On a reçu cette pensée de Dieu. Parfois, Dieu parle par des pensées. Ça arrive. Et on a reçu cette pensée que quelqu'un avait mal à la hanche et que Dieu voulait guérir. On cherche cette personne depuis ce matin. Et il se trouve que ma femme s'était déboîtée la hanche étant adolescente ou jeune adulte suite à une chute en faisant de l'escalade. Et elle a dit, ben oui, moi. Et les enfants ont dit, ah ben depuis le temps qu'on vous cherchait. Et ils ont prié pour elle. Et depuis lors, ça fait maintenant 13 ans, elle est totalement guérie de la hanche. Sa hanche s'est remise en place, elle ne s'est plus jamais déboîtée, alors que c'était vraiment un handicap pour elle. Et puis ses enfants ont dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre pour qui on peut prier? Est-ce qu'on peut bénir le petit bébé? Et donc ces jeunes, ils devaient avoir, je dis enfants, mais c'était des jeunes ados, 12 ans, quelque chose comme ça. Ils ont prié pour mon bébé, qui avait en fait un pied une différence de deux tailles de pointure sur ses pieds, un pied plus petit que l'autre. Et ils ont dit, mais on croit que Dieu peut faire le miracle de ragrandir les membres. Alors déjà, il faut beaucoup de foi, mais Jésus dit, ayez la foi qu'ont les petits-enfants. Alors ces petits-enfants, ou ces enfants de 12 ans, là, prient pour notre fils, et en priant pour lui, avant de prier, ils disent, est-ce que vous voulez que le pied se ragrandisse ou se rétrécisse? Ça nous a bien fait rire. Nous, notre désir, c'était simplement que les pieds soient à la même taille. Si Dieu pouvait faire ce miracle-là, parce que même le médecin ne savait pas comment faire, ou disait, ça va être compliqué. Et ils ont prié, et les pieds sont venus à la même taille. Ils ont prié en prenant les pieds dans leurs mains, et quand on a remis les pieds l'un contre l'autre, ils étaient exactement à la même taille. Et mon fils a aujourd'hui 13 ans, et je peux vous dire qu'il a vraiment des grands pieds. C'est un grand garçon, il a bientôt ma pointure, et que ses pieds sont parfaits et à la même taille. Dieu fait de grandes choses. J'ai eu la chance de voir une personne, alors que je priais pour elle, une personne qui était sourde, réentendre, être guérie de sa surdité. Et puis, la fille de cette personne avait des problèmes de cartilage détruit au genou à cause de l'obésité. Et la même chose, j'ai prié pour cette dame-là. Et elle a pu commencer à plier ses genoux parce qu'elle ne pouvait plus faire depuis tellement longtemps. Elle a sauté dans tous les sens. Et Dieu a reconstitué un cartilage dans ses jambes. Dieu fait de grandes choses. Dieu peut agir dans nos vies. Jésus a guéri un aveugle avec de la boue, en crachant dans de la boue, nous dit la Bible. Du temps de Moïse, Dieu lui a dit de se faire un serpent brûlant en airain et de le placer sur une perche. Et quiconque qui aurait été mordu par les serpents dans le désert et regarderait ce serpent brûlant conserverait la vie. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses un peu folles et bizarres. Parfois, il y a des choses qui dépassent le bon sens. Mais c'est quoi avoir du bon sens? Qui est bon? Qui a le bon sens? Est-ce que c'est notre raisonnement humain ou est-ce que c'est Dieu le créateur de toutes choses? Alors, cherchons Dieu en priorité Et comme moi j'ai vu ces guérisons, j'ai vu Dieu agir puissamment. Je crois qu'il peut agir dans vos vies. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que vous entendez ces témoignages. Alors je vous invite à le recevoir aussi pour vous. Et si vous vous êtes malade, si vous avez une souffrance, si vous avez besoin que Dieu agisse dans votre vie, faites cette prière maintenant. Seigneur, viens, guéris-moi. Posez la main sur la partie de votre corps qui est malade et invitez-le à venir vous guérir et vous restaurer. J'ai entendu ce témoignage d'un ami pasteur qui prêchait sur Jésus et la femme à la perte de sang et qui disait que Jésus avait guéri cette femme avec des pertes de sang, donc des règles abondantes certainement. Et alors qu'il témoignait de ça, il y a une personne qui était guérie, c'était dans une école, et une étudiante de son école a été guérie totalement. Et puis il témoignait de cela dans une autre conférence, et en témoignant de cela, une autre personne a été guérie. Puis il a retémoigné une autre fois, quelqu'un d'autre a été guéri. Il y a eu 35 témoignages de guérison en 6 mois de femmes avec des pertes de sang ou des règles douloureuses, suite juste à des témoignages. Dieu peut agir dans votre vie. Il est la lumière du monde, nous dit la parole. Alors laissez-le guider votre vie. En fait, Jésus n'est pas venu sur terre pour rester le petit Jésus dans une crèche, tout simple. Non, Jésus est venu sur terre pour nous révéler le Père. Il est venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu, parce que nous étions séparés de Dieu à cause du péché, héritiers d'Adam et Ève qui, de par leur choix, ont été séparés, rejetés hors du jardin de Dieu. Et à l'entrée de ce jardin, il y a mis des anges qui tiennent la porte fermée. Et cette porte est tout le temps restée fermée. Mais par Jésus, le chemin est à nouveau ouvert. Jésus est la porte, nous dit la Bible. Il se présente dans Jean 6 comme étant la porte. C'est-à-dire que c'est par lui qu'on peut venir au Père. Un peu de temps avant de vivre la croix et de mourir, puis d'être ressuscité, Jésus va se retirer et faire cette prière qu'on retrouve dans Jean 17, où il dit, il prie Dieu le Père et il dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. » Et il priera pour que les êtres humains, les disciples, que nous tous ayons la vie éternelle. Il prie le Père et dit, « Accorde-leur la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il dira, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. » C'est comme si, avant de venir sur cette terre, sous la forme du petit Jésus, il était dans la gloire, il connaissait la gloire de Dieu. Et en quittant cette terre, Jésus dit, cette gloire que j'ai connue au ciel, je veux que les êtres humains la connaissent aussi. Je suis venu ouvrir un chemin. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Mais il dit aussi, Seigneur, révèle ta gloire sur la terre. Dieu veut révéler sa gloire dans ta vie. Dieu veut être la lumière de ta vie. Il veut être tellement la lumière de ta vie que c'est une lumière qui se transmet d'âge en âge. Au verset 20 de Jean 17, Jésus continue de prier pour les disciples et il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leur témoignage, leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Jésus dira, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. En fait, l'unité révèle la gloire de Dieu. Et l'unité est parfaite et totale dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. aimons Dieu de tout notre cœur et il nous révélera encore plus sa gloire, sa lumière et guidera chacun de nos pas. Je prie que cette année 2026 soit pour vous une année pleine de sa gloire. Je vous invite donc à la prière. Seigneur Jésus, révèle-nous ta gloire. Comme tu t'es révélé aux mages, révèle-toi à nous. Guide chacun de nos pas. Et que tout ce qui est en moi ne m'éloigne de toi soit révélé et que tu viennes travailler dans mon être, dans mes profondeurs, pour que je puisse faire ta volonté et non la mienne, et que je sois aligné sur ton désir, sur ton cœur, pour que cette année 2026 soit une année glorieuse, une année de joie, une année de paix, et une année où toi, en es le, toi seul, Dieu en est le maître. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Amen.
Je mets entre tes mains.